Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est de retour en nombre, donc suite à la chronique très intéressante d'Enzo, on va poursuivre sous la forme d'une discussion ouverte.
Ouais, justement, là, ben, j'ai suite à justement à tout ce que tu as dit, Enzo, moi j'ai vu dernièrement là, qu'il y avait eu un appel de plus d'une cinquantaine d'organisations écologiques en soutien à la colère des agriculteurs tels que Terre de lutte, France Nature Environnement, Extinction Rébellion, Greenpeace. Je ne sais pas, est-ce que tu as vu, toi, des actions, par exemple, très concrètes de ces groupes-là en France? Là, je te relance la parole directement.
Et merci, mais oui, c'est très intéressant et c'est majeur, en fait, le sujet que tu lances, la cause environnementale. Effectivement, on a pu voir, en fait, dans les médias français ou dans les médias tout court, qu'il y avait une espèce d'opposition qui pouvait s'installer entre les agriculteurs et les écologistes. Certaines prises de parole disaient que c'était à cause des mesures environnementales ou de la mouvance écologiste que cette crise-là se développait. Moi, je veux quand même rappeler aux gens que c'est pas les écologistes hein, qui sont au pouvoir depuis 30 ans. Ils ont jamais été au pouvoir d'ailleurs. C'est par rapport aux mesures libérales et les mesures d'austérité sur les agriculteurs qui a lieu depuis des années et des années. Deuxièmement, effectivement, là, tu parles d'organisations écologiques qui soutiennent, et c'est intéressant. Mais en fait, la chose, c'est que comme c'était des mesures qui pouvaient paraître écologiques, un peu comme la taxe carbone, mais qui en réalité, si tu mets pas d'alternative à ces mesures-là, il n'y a pas vraiment d'intérêt et d'impact écologique, en réalité. Donc oui, c'est vrai qu'interdire le glyphosate ou interdire certains phytosanitaires, pouvait paraître écologique. Bon, encore ça, c'est discutable parce que tout un tas de produits phytosanitaires sont tenus par des lobbies qui sont souvent en lien avec le gouvernement. On voit que le glyphosate, justement, son interdiction a été repoussée en 2027. Donc, au-delà de l'interdiction de produits phytosanitaires, c'est plus que, encore une fois, c'est plus la concurrence entre le fait que la France ne peut pas utiliser certains produits et que les pays étrangers peuvent et vendent leurs produits sur le territoire à moindre coût. Au-delà de ça, on peut effectivement faire une convergence des luttes entre la lutte des agriculteurs et la cause environnementale. Et donc, je comprends effectivement, et c'est presque même logique, que ces organisations écologiques signent cette tribune en lien avec les agriculteurs. Parce qu'effectivement, c'est toujours intéressant de vouloir interdire, en ce moment on est vraiment dans ça, dans les politiques d'austérité. Alors on veut interdire le nucléaire, on interdit les phytosanitaires, on veut interdire, c'est tout un tas de choses qu'on entend, on veut mettre la taxe carbone sur les gens qui utilisent l'essence, mais il y a rarement d'alternative. Et en fait c'est ça, faire des mesures d'austérité, faire des interdictions sur le papier, ok, mais s'il n'y a pas d'alternative pour les travailleurs, c'est un vrai problème. Et là on le voit pour les agriculteurs, bah, c'est un vrai problème parce que leur interdire l'utilisation de produits phytosanitaires, mais en faisant baisser leur coûts et en faisant rentrer des concurrents déloyaux sur leur territoire, qui fait qu'ils auront impossibilité de vendre leurs produits, il y a un vrai problème. Alors que le fait que des organisations écologiques entrent dans ce débat, c'est intéressant parce que c'est eux qui pourraient nous offrir cette alternative. Et oui, il faut interdire en fait le glyphosate. Oui, il faut interdire les produits de Monsanto qui stérilisent nos plantes et qui détruisent notre écosystème. Mais il faut une alternative. Parce que s'il n'y a pas d'alternative, bah, y a ce qui se passe en ce moment. S'il n'y a pas d'alternative à cette taxe sur le carbone, bah, les gens qui l'utilisent bah, auront des problèmes. Et souvent, ces travailleurs ou ces agriculteurs ne peuvent pas aller eux-mêmes chercher ces alternatives qui sont coûteuses. Donc oui, il faut des alternatives. Il faut un développement à moindre coût, peut-être du bio. Ou il faut peut-être, et c'est la revendication principale, il faut imposer aux grandes entreprises phytosanitaire, au lobby dont Monsanto, Bayer, aux grandes entreprises agroalimentaires, il faudrait peut-être imposer ça sur une échelle bien plus grande et interdire la production et la vente d'entreprises qui ne le font pas. Donc voilà, c'est tout un tas de... Donc réfléchir à des alternatives, réfléchir à comment bloquer ces pays et ces entreprises qui ne respectent pas ces normes environnementales. Et lier effectivement et faire converger la lutte environnementale et la lutte sociale, car elles sont liées complètement.
Oui, c'est ça, parce qu'à la fin de la journée, on a besoin de ces agriculteurs-là, on a besoin justement qu'ils travaillent, il faut les aider dans ce sens-là. Puis tu sais, oui, comme tu disais, c'est super important au final d'interdire le glyphosate, parce que si je me souviens bien, notamment c'est cancéreux. C'est cancéreux, il va falloir les interdire, mais on peut pas juste dire aux agriculteurs, excusez-moi l'expression, mais démerdez-vous, vous avez plus le droit d'utiliser ça, puis il n'y a pas d'autre alternative. Il leur faut des moyens d'être capable de maintenir un certain niveau d'efficacité de production face justement au commerce international. C'est nécessaire. Puis, tu sais, si je me souviens bien, là, ça a été un des grands sujets de renégociation de l'ALENA, justement, par rapport au lait québécois, je crois, là, si je me souviens bien, pour que... D'ailleurs, on a perdu, justement... le commerce du lait québécois a perdu, justement... de la place, et justement il y a des laits américains maintenant qui sont sur les étagères comme ça, fait que j'imagine c'est un petit peu dans la même idée là. Il faut protéger justement nos producteurs agroalimentaires
là. Mais complètement, on parle de la France parce que c'est vrai que ça a un raisonnement particulier, parce que le mouvement social il est gros, il est puissant, il est impactant. On voit qu'il y a eu des actions qui ont été assez virulentes de la part des agriculteurs. Après ça c'est un autre débat, hein. Est-ce qu'on est en accord ou pas avec les actions, c'est un autre dégât. En tout cas, les revendications, elles, sont complètement légitimes. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la France, parce que les actions sont importantes. Mais effectivement, cet enjeu-là, il est international. Comme tu le dis, on voit la même chose sur le territoire canadien, sur la concurrence entre les produits canadiens et les produits américains, qui, les produits américains, ont également moins d'interdictions et sont vendus à moindre coût également. Et c'est pareil sur toute l'Europe. On voit que les agriculteurs néerlandais et allemands aussi subissent la même austérité et la même concurrence déloyale, et d'ailleurs rejoignent la mobilisation. Et là, ce matin, parce que c'est un sujet intéressant, mais qui évolue constamment. Donc là, je parle, mais peut-être que dans deux heures, ça évoluerait différemment. Ce matin, en arrivant à la radio, il y a eu une nouvelle qui est tombée, comme quoi les agriculteurs et les syndicats espagnols annonçaient rejoindre le mouvement français et le mouvement européen général. Donc oui, en fait, cette mondialisation et cette globalisation du marché fait que cet enjeu-là est un enjeu international. Ouais.
Puis c'est ça, ne soyez pas surpris là à la maison, justement, qu'il y a une augmentation que vous pouvez considérer outrageuse du prix de l'épicerie. C'est directement en lien avec ça. Là. C'est
L'inflation est une des conséquences de cette concurrence déloyale, effectivement.
Il y a aussi un enjeu, comme vous mentionnez, les gars, de sécurité alimentaire, c'est qu'elle importe beaucoup des produits alimentaires qu'autrefois, avant, elle était autosuffisante, qu'elle pouvait... qu'elle était autosuffisante, excuse.
Tu parles dans cet import-export qu'on est rentré dans un marché...
Exactement. Je lisais récemment que la France importe aujourd'hui 70% de ses fruits, 30% de ses légumes et 50% de ses poulets. Alors qu'elle le faisait pas il y a une décennie ou deux.
Ouais, c'est clair. De ce que j'ai entendu de beaucoup de revendications, c'est que beaucoup parlent de revoir en fait les traités, parce que là on n'est plus sur des traités de libre-échange. C'est pas l'idée des traités, là c'est complètement libre et les importateurs, les exportateurs font ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui parlent de revoir ces traités, d'y mettre plus de règles en fait, de voir qu'est-ce qu'on importe, qu'est-ce qu'on exporte, de quoi nous avons besoin, qu'est-ce qui est nécessaire. Il y en a qui parlent de revoir quels produits exotiques seraient sur le territoire, ces choses-là. Mais en même temps, il faut aussi qu'on traite avec cette mondialisation. Parce que je parlais encore, est-ce que la politique de l'interdiction est encore valable, ou moi, je pense que ce qui serait intéressant, ce serait des alternatives. Encore une fois, parce que je pense que on pourra pas priver demain matin les gens de produits étrangers, comme d'interdire du jour au lendemain le café, les ananas ou le. Je pense qu'il faut réussir à pallier à ce problème avec des alternatives plus qu'avec des mesures d'austérité, parce que dans la mesure actuelle, ça serait compliqué d'imposer ces mesures d'austérité. Après, ces alternatives, justement. Comme disait mon collègue tout à l'heure, je pense que ces alternatives, il faut les lier entre la crise sociale, environnementale et agricole. C'est vers ça que doivent aller ces alternatives.
Que justement, là, qui va refuser de ne pas avoir qui va être capable de se priver d'avocat là, d'ici demain là, t'sais. Tout le monde consomme des avocats, puis je tiens à dire, c'est absolument délicieux, là. Mais probablement un des produits les plus terribles, justement, là, à consommer, à encourager, justement.
Le soja.
Ouais, tout ce qui a rapport à ça, c'est un peu terrible. Mais c'est qu'on est rendu habitué avec ça. Et justement, c'est pour ça qu'il y a eu comme plein d'encouragements, justement, à acheter des produits saisonniers, là, dans les dernières années. Donc, tout ce qui se produit en saison, notamment dans ton propre pays ou dans ta propre région. Là.
Mais c'est un vrai débat. Est-ce que le problème, c'est la mondialisation? Bon, finalement, qui a peut-être un côté... Pas forcément la mondialisation libérale avec tous ses intérêts, mais le fait d'avoir des produits qui viennent de l'étranger à une vitesse assez grande, certains pourraient voir ça comme un progrès. Et le problème, est-ce que c'est cette mondialisation? Ou le problème, est-ce que c'est ce dont je parlais tout à l'heure, qui sont les grandes entreprises et les de l'agroalimentaire, les grands magasins de l'agroalimentaire qui augmentent leur marge de profit et qui profitent de la crise inflationniste pour augmenter leur marge de profit tout en réduisant celle des agriculteurs. Est-ce que le problème, ça serait pas plus ça, en fait, que l'importation de produits étrangers, finalement? Ou est-ce que le problème, ça serait pas justement la libéralisation des produits phytosanitaires développés par les grandes entreprises phytosanitaires? Donc voilà, est-ce que et aussi de revoir qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on surproduit, qu'est-ce qu'on sous-produit, et peut-être redéfinir aussi le marché agricole international. Parce que ce qui est fou aussi, ce serait de voir que des milliers, des millions de produits et de marchandises sont jetés dans ces grandes entreprises, dans ces grands magasins de grande distribution, parce qu'eux sont invendus. Les agriculteurs aussi jettent de nombreux produits, de nombreuses viandes. Donc c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à vendre toutes leurs marchandises et en même temps sont en crise. Tandis que dans d'autres pays, justement, il faudrait qu'il y ait plus de marchandises. Dans d'autres pays, on souffre de malnutrition et de famine. Donc c'est peut-être un modèle, finalement, notre modèle agricole de distribution qu'il faudrait revoir. Mais c'est un autre débat bien plus grand. Mais voilà, merci de m'avoir écouté, chers auditeurs. Je trouvais ça bon de rappeler cette crise et de soutenir aussi nos agriculteurs, que ce soit les agriculteurs français et que ce soit les travailleurs du monde de l'agriculture. Voilà, peu importe, ceux qui travaillent dans le domaine de l'agriculture, les agriculteurs eux-mêmes, et de rappeler qu'on pouvait aussi réfléchir à d'autres possibilités par rapport à la distribution agricole. Donc voilà, merci. Puis je vais relaisser l'antenne à notre animateur Marc-Antoine. Et merci.
Merci Enzo pour ta chronique, c'était très intéressant. On va brièvement aller en pause publicitaire et après on va parler de le début des audiences de la Commission fédérale d'enquête fédérale sur l'ingérence étrangère, ce qui est d'ailleurs ma chronique.